Mesdames, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Les Tontons Farmeurs, une émission qui...
Les Tontons Farmeurs, l'émission qui dézingue les idées reçues sur l'agriculture.
Une émission pour vous, les agriculteurs.
Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Une émission de TV Agri en partenariat avec l'association Co-Farming et nos partenaires de la Banque Populaire et le Groupe Agrica, deux partenaires qui aiment prendre des risques en nous soutenant et je les en remercie. Alors, qui sont nos tontons farmeurs de la semaine? Tout d'abord, j'accueille le grand, le célèbre Anaël Bibard, cofondateur de la plateforme FarmLip. Elle permet quoi cette plateforme, Anaël?
Alors, FarmLip, c'est une plateforme qui permet de se comparer pour améliorer sa performance éco et environnementale, c'est à numérique.
Bon, et puis Sylvain Gestionnesse, bonjour, vous êtes agriculteur et cofondateur de Piloter sa ferme. Sylvain, vous proposez quoi comme service?
Bonjour à tous, nous avons créé avec les agriculteurs des outils pour savoir prendre de bonnes décisions sur deux domaines bien différents et complémentaires. D'une part, savoir prendre de bonnes décisions pour vendre ses céréales, savoir quand vendre et combien vendre sur les marchés agricoles. Et d'autre part, en lien avec le thème d'aujourd'hui, intervenir dans le pilotage économique des exploitations agricoles pour savoir si les exploitations sont rentables et est-ce qu'elles sont capables de résister aux chocs économiques et climatiques que l'on rencontre de plus en plus souvent sur nos exploitations.
Tout au programme. Et notre troisième tonton farmer est une guest star, à savoir Denis Beauchamp, le président de France Agri-Twittos. France Agri-Twittos, si on ne connaît pas, c'est quoi, Denis?
Bonjour. Alors, France Agri-Twittos, c'est une association qui regroupe sur Twitter donc toutes celles et ceux qui veulent montrer l'agriculture française telle qu'elle est réellement, sans aucun filtre, et qui explique avec beaucoup de pédagogie, du mot de bienveillance, la réalité du monde agricole d'aujourd'hui.
Et je précise quand même que président d'une telle asso, c'est de la gloire, certes, mais cela ne nourrit pas son homme. Alors, je rappelle que vous êtes aussi responsable céréales d'une coopérative agricole auvergnate. Comme voilà. Chaque semaine, je vous le dis, le ministre de l'Agriculture n'a pas répondu à notre invitation pour participer à notre émission. Mais bon, on survit quand même, et même plutôt bien, puisque l'on accueille non pas un, mais deux parlementaires cette semaine. Tout d'abord, celui qui a la chance de vivre sur les bords de l'Adour, à Bagnères-de-Bigorre, une région que je connais bien, que l'on aime, et que, où on aime la garbure, le Madiran et la croustade. J'ai nommé Jean-Bernard Saint-Pastous, député des Hautes-Pyrénées. Jean-Bernard, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, et c'est un tort, je le dis, Bagnères-de-Bigorre et ses Coustous. Bagnères, c'est la ville de pèlerinage annuel du président Macron, la ville de son enfance, n'est-ce pas Jean-Bernard?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est blotti au pied du pic du Midi et bien connu effectivement d'Emmanuel Macron qui venait passer tous ses étés lorsqu'il était enfant et adolescent.
Et j'accueille aussi Joël Labbé, vous êtes sénateur du Morbihan, c'est donc la Bretagne qui est à l'honneur avec vous. Vous êtes à l'origine de la loi qui porte d'ailleurs votre nom, la loi du 6 février 2014, visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phyto, notamment dans les espaces ouverts au public, la fameuse loi Labbé dont tout le monde a parlé. Vous avez été pendant longtemps, mais vous n'êtes plus depuis 2016, membre d'Europe Écologie Les Verts, mais vous restez quand même un écolo, rassurez-nous Joël.
Oui, je suis un écolo et je crois plus que jamais. Bon. Les écolos libres de la grande famille des écolos, mais avec ma liberté.
Et nous avons deux experts, Sébastien Abyss, DG de Déméter, qui publie notamment Géopolitique de l'agriculture, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde aux éditions Erol, et Stéphane Linou, locavore de la première heure, l'expert national de la résilience et de la sécurité alimentaire, auteur d'un ouvrage que je vous recommande, Résilience alimentaire et sécurité nationale. Bonjour Stéphane et bonjour Eric.
Bon. Bonjour à tout le monde.
Et bien voilà, on va attaquer
Tonton Farmer, l'émission qui dézingue les idées reçues sur l'agriculture.
Anaël, quelle est l'actu qui t'a le plus énervé cette semaine?
Alors moi, c'est une actu qui m'énerve et qui m'inquiète, hein. C'est le climat de violence, tant dans le débat qu'ensuite dans les fermes et dans les champs. Lorsqu'on voit Boucherie Abolition qui retweet cette semaine des montages photos qui présentent le ministre de l'Agriculture en Asie, parce qu'ils souhaitent moderniser les outils d'abattage. Après, il ne faut pas s'étonner que les troupes d'antispécistes passe à une violence physique, ou quand on entend cognon sur les empoisonneurs sur un compte Twitter des coquelicots, faut pas s'étonner que des gens passent à l'acte et croient que c'est vraiment c'est pas une maxime politique, mais que c'est vraiment quelque chose qu'il faut réaliser. Donc, gardons le débat serein, mais les médias ont maintenant une responsabilité lorsqu'ils donnent la parole sans garde-fou à des activistes qui prônent une violence pour arriver à leur fin.
Et je comprends même pas que le ministre de l'Agriculture ne porte pas plainte d'ailleurs sur cette représentation avec une chemise nazie. Et toi Sylvain, c'est quoi l'actu qui t'a énervé?
Pour moi c'est une actualité dont on ne parle presque pas aujourd'hui dans les grands médias. La France dispose de plusieurs atouts. Le tourisme, on a bien vu avec cet été, avec la crise sanitaire, qu'il y a eu beaucoup moins de touristes étrangers sur les lieux touristiques, y compris notamment dans les Pyrénées et partout par ailleurs. Et donc ça, c'est pas bon pour l'économie parce qu'il y a moins d'argent dans les caisses des acteurs économiques. La France est aussi un maillon fort pour Airbus. Et moi, je suis le premier content quand on vend plusieurs dizaines d'Airbus parce que je sais que c'est bon pour l'économie européenne et c'est bon pour l'emploi. Et au cours des prochains mois, je pense qu'on va vendre moins d'Airbus et ça, c'est pas bon pour l'économie française. Mais la France aussi, elle produit et elle exporte aussi des céréales. Et chaque semaine, il part des milliers de tonnes des différents ports en France. Et ça, chaque semaine, la vente de céréales qu'on exporte, ça représente l'équivalent de la vente de 2 Airbus par semaine. Donc sur une année, on vend et on exporte l'équivalent de 100 Airbus de céréales à travers nos ports français. Et ça fait des décennies que ça dure. Et ça, c'est bon pour l'économie française. Et cette année, avec la crise sanitaire, la France va continuer à exporter. Et ça, c'est bon pour l'économie. Et ça, c'est bon pour l'emploi. Et ce qui m'énerve, c'est qu'on met souvent en avant l'agriculture française, ce qui ne va pas, et on ne parle pas suffisamment de ce qui va bien. Et c'est d'autant plus facile quand ce qui ne va pas, ça fait beaucoup d'ambiance.
Et toi, Denis ?
Ce qui m'énerve, c'est qu'on...
Ah, mais on avait compris, je pense, Sylvain. Et toi, Denis ?
Alors moi, c'est... grand spécialiste des pucerons qui sont apparus depuis une dizaine de jours. Depuis qu'on parle de réintroduire des néonicotinoïdes sur les betteraves, on a plein de gens qui sont devenus experts en la matière, alors que c'est un domaine extrêmement compliqué. On avait par exemple Yannick Jadot qui disait qu'il suffisait de semer des févroles d'interculture des betteraves pour ne plus avoir de pucerons ensuite. Donc voilà, je pense que la blague se suffit à elle-même.
Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Et oui, effectivement, on a besoin de vous, c'est très simple. Hashtag TTF comme Tonton Farmer, vous pouvez réagir en direct sur Twitter ou aussi nous appeler au 07 51 53 17 27 et vous interviendrez en direct dans l'émission. Alors on en vient au dossier de la semaine. La France met-elle en péril sa sécurité alimentaire? Alors c'est vrai que lorsque l'on voit comment on avait juste négligé de renouveler les stocks de masques sans prévoir un éventuel coronavirus, comment le gouvernement libanais incite aujourd'hui tous les citoyens à cultiver tous les mètres de terre, car le risque de pénurie alimentaire est si prégnant au royaume du cèdre, on peut quand même se dire que la faim est une douleur que l'on pourrait malheureusement avoir de nouveau à connaître, car on ne sait pas de quoi demain sera fait. Stéphane Linou, le problème, c'est que le risque alimentaire, tout le monde s'en fout, non ?
En fait, oui, j'ai l'impression que, je suis pas seul, que le plus vieux sujet du monde, c'est-à-dire le lien entre l'alimentation et la sécurité, n'est quasiment plus pensé depuis que nous sommes dans une totale ébriété énergétique. Il nous fait croire que se nourrir est une affaire réglée et qu'il n'y a qu'à regarder la pointe de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire sur le non-essentiel, alors que les deux premiers étages, c'est-à-dire les ressources, dont l'alimentation et la sécurité, ne sont pas acquis, donc cet épisode du Covid est peut-être une petite claque pédagogique pour qui nous a fait, le temps du confinement, remettre la pyramide de Maslow enfin à l'endroit, mais rien n'est acquis et il faut se battre là-dessus.
Stéphane, il faut parler plus fort. Dans Résilience alimentaire et sécurité nationale, vous avez fait une enquête, donc vous avez trouvé c'est qui doit s'occuper de la sécurité alimentaire, c'est la Défense nationale ?
Mais en fait, c'est tout le monde, même le consommateur peut être et doit être coproducteur de sa propre sécurité en fléchant ses achats. Lorsqu'il achète local ou national, en fait, il maintient des infrastructures nourricières en vie qui, lorsque ça va mal, sont là et le rassurent. Mais pour que ça soit le cas lorsque ça va mal, il faut les entretenir lorsque ça va bien. Donc, en fait, le consommateur, les collectivités locales, à travers aussi, et l'État, à travers le maintien de tous les facteurs de production, que ce soit des semences jusqu'à la distribution, en passant par les outils de transformation, le foncier nourricier, à travers les documents d'urbanisme et à travers les documents liés à la sécurité civile, les collectivités locales ont également leur rôle à jouer. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des maires au Moyen-Âge. C'était, entre autres, la sécurité alimentaire. Mais ça, on l'a complètement oublié. Et ce sont des acteurs privés, j'ai rien contre le privé, hein, qui, indirectement, assument cette sécurité alimentaire. Mais ce sont des acteurs qui n'ont que quelques jours de stock, mais qui ne sont pas au plus près des besoins de consommation. Lorsque l'on a des populations devenues intolérantes à la frustration, on voit ce qui se passe lorsqu'il y a une incertitude sur la continuité des approvisionnements.
Joël Labbé,
si on avait un arrêt, oui.
Oui, Joël Labbé, ça mériterait peut-être une préoccupation du côté des parlementaires, ça, non ?
Eh bien, je fais partie de ceux qui sont extrêmement préoccupés et qui ont co-signé la résolution visant justement à la résilience alimentaire. On n'a pas trouvé de majorité, mais c'est à quelques unités près. En fait, la question qu'on doit se poser, est-ce que les denrées alimentaires, le marché des denrées alimentaires, doit-il être définitivement mondialisé d'une manière indispensable comme c'est le cas actuellement ? La réponse, c'est non. C'est une catastrophe pour les denrées alimentaires, pour la santé et pour nos agriculteurs avant tout. On a plein de sujets qui devraient nous réunir. Par contre, dans la mesure où, sur l'état des lieux, on est en capacité de se dire notre agriculture va mal, elle va très mal. Notre modèle agricole, doit-on le poursuivre dans cette forme de démesure, cette forme de fuite en avant, ou doit-on relocaliser notre alimentation autour des territoires? Alors, il ne s'agit pas de l'autarcie, évidemment. On est un pays exportateur d'un certain nombre de denrées. Que l'on puisse continuer dans l'intérêt d'autres populations, c'est normal. Maintenant, avec des projets alimentaires territoriaux que l'on a mis en place sur une proposition écologiste, eh bien, il y a possibilité de travailler avec tout le monde autour de la table sur les territoires, de telle sorte qu'on peut se donner l'horizon 2030, que la plus grande partie des denrées alimentaires consommées sur un territoire soit produite sur ce territoire. C'est gagnant pour absolument tout le monde. Certains disent, oui, mais c'est complètement utopique. Eh bien, pour moi, c'est une utopie vitale et nécessaire dans l'intérêt de tout le monde et avant tout l'intérêt des agriculteurs, que nous, on appelle paysans, les éleveurs, de telle sorte
oui, Joël, vous faites trop long.
Décemment de leur travail.
Et Joël Labbé, non, mais dites-moi plutôt, comment ça se fait, ça tombe sous le sens, ça. Pourquoi au mois de décembre, à la fin de l'année, vous n'avez pas été suivi pour justement faire un texte de loi dessus ? Qui n'a pas suivi ?
Eh bien, alors, si vous avez suivi ce qui s'est passé, vous-même avez dû suivre. En fait, nous, on essaie de travailler depuis longtemps là-dessus. Une relocalisation mesurée, mais accélérée de l'alimentation. On a un mal fou, on sait qu'il y a du lobbying, de l'industrie agroalimentaire, de tous ceux qui font leur business des mouvements de produits alimentaires, ceux qui veulent aller toujours au plus bas, quel que soit le mode de production et quel que soit le mode de travail des producteurs. Il est temps d'en finir. Alors, ce qui va nous faire nous rejoindre, je pense que beaucoup dans le monde agricole sont OK sur la question de relocaliser beaucoup plus l'alimentation. En finir avec des accords de libre-échange, parce qu'à continuer comme ça avec ces accords de libre-échange qui consacrent la mondialisation de l'alimentation, c'est une catastrophe pour tout le monde, y compris presque avant tout pour les pays tiers. Je pense aux pays de l'Afrique de l'Ouest, avec les accords de partenariat économique, c'est scandaleux. Et ça, c'est dans l'intérêt financier de l'Europe. Et c'est à dénoncer. L'ensemble des accords de libre-échange.
Il faut donner...
on va encore être d'accord sur
oui,
une exigence.
Mais il faut donner la parole à l'Assemblée nationale, Joël Labbé. Il faut que vous le donniez la parole côté Assemblée nationale. Jean-Bernard, qu'est-ce que vous en pensez, vous, côté député ?
Ben, je pense d'abord que la crise qu'on a vécue avec le Covid a déstabilisé énormément nos filières, hein, et a impacté la disponibilité de nombreux produits. On l'a bien vu, les supermarchés, etc. Mais aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion aussi aux consommateurs, parce que moi je suis persuadé que le consommateur est quand même le maître d'œuvre là-dessus, de voir que le ralentissement qu'il y a eu, les impacts sur les approvisionnements, ils ont vu que sur les territoires, alors moi je parle des territoires ruraux ici, qu'ils avaient à disposition à côté de chez eux des produits qu'ils n'avaient même pas imaginés. Donc ça, c'est une richesse pour nos agriculteurs. Moi, je pense aussi que les élus, à travers les SCOT, à travers les possibilités qu'ils peuvent sur leur territoire de mettre en place une véritable table ronde qui nous permettrait de mettre en avant l'agriculture, seront les maîtres d'œuvre pour d'eux-mêmes.
Bon, on va écouter Stéphane Linou. On est vraiment bête dans le monde agricole ou en dehors. C'est-à-dire que si on était assez malin pour faire du risque alimentaire un risque majeur, on pourrait sortir l'agriculture des contraintes, des accords qu'on ne veut pas, notamment le CETA. C'est ça votre théorie ?
Entre autres, oui, c'est tout simplement... J'ai emprunté le continuum sécurité-défense, ça. C'est-à-dire le lien qu'il y a entre le gardien du supermarché, le vigile de supermarché et le sous-marin nucléaire à lanceur d'engins. Et en fait, tous les maillons de cette chaîne, l'un suppé l'autre, c'est un rhéostat, seraient impactés s'il y avait, par exemple, une cyberattaque sur la chaîne logistique. En 2008, j'avais pris l'hypothèse d'une pandémie grippale qui, justement, bloque les chaînes d'approvisionnement. Et en fait, avec des populations non préparées, avec des territoires qui n'ont que à peu près 2% de résilience alimentaire, d'autonomie alimentaire, avec une totale dépendance aux flux. Très concrètement, s'il y a un problème sur les flux, on se tape dessus. Et très concrètement, ce sont les deux des trois piliers régaliens qui seraient concernés, c'est-à-dire la sécurité intérieure et la sécurité nationale. Donc en fait, il y a en gros deux excuses que l'on peut brandir pour sortir certaines productions de certains traités nationaux, c'est l'excuse sanitaire, c'est-à-dire vos produits sont non conformes, ils sont posés, j'en veux pas, et l'excuse sécurité nationale. Moi, je n'ai aucun problème à amener cette démonstration documentée avec des militaires et tout ça, en disant voilà, ok, nous sommes dans une économie de marché, très bien, on ne la remet pas en cause, mais l'idéologie ultralibérale de mettre tout et n'importe quoi sur des marchés, dont l'agriculture, c'est complètement incompatible avec une politique de gestion des risques. La preuve, la sécurité intérieure et la sécurité nationale, à l'heure actuelle, peuvent être fragilisées par des problèmes sur les flux. Donc ça, c'est à mon avis, une démonstration qui mériterait d'être brandie et creusée et bien explorée par le monde agricole qui, pour l'instant, n'a pas saisi cet enjeu.
Alors, justement, messieurs et mesdames, les syndicalistes agricoles, étudiez cette question qui permettrait un peu de s'affranchir de ces accords internationaux. Sébastien Abyss, comment vous réagissez ?
Ben écoutez, moi, je pense qu'il y a une question qui est posée pour cette émission, qui est de savoir si la France met en péril sa sécurité alimentaire. D'abord, vis-à-vis du reste du monde, non. Vous avez parlé du Liban, Jean-Paul, c'est un pays que je connais bien, je me suis beaucoup exprimé par rapport à ce pays ces derniers temps. Oui, il y a de l'insécurité alimentaire au Liban, quantitativement, qualitativement, et très peu de diversité, des problématiques de production qui sont liées au manque d'eau, au manque de terre, au climat, qui changent beaucoup plus rapidement qu'ici. Donc, vis-à-vis du reste du monde, il faut savoir raison garder et bien insister sur le fait que la France est en sécurité alimentaire et que les Français disposent d'une sécurité alimentaire qu'une grande partie de la planète leur envie. La deuxième chose, c'est qu'à l'échelle de l'histoire, nous n'avons jamais été autant en sécurité alimentaire qu'en 2020 en France. N'en déplaise à tous ceux qui expliquent que c'était mieux avant. Non, sur le plan quantitatif, sur le plan qualitatif, sur la diversité de l'offre aux consommateurs qui est devenue extrêmement exigeant, qui veut de tout à toutes les saisons, qui veut les choses sans payer plus cher, nous avons une sécurité alimentaire qui s'est renforcée. Cette performance en 2020 s'explique en partie par l'Union européenne depuis un demi-siècle et par l'ambition qu'a eue la France d'avoir une conquête justement de sa sécurité alimentaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, moi j'entends parfaitement tout ce qui a été dit et je rejoins un certain nombre de propos. J'aimerais juste que de temps en temps, on se rende compte que les agriculteurs dans ce pays ont fait un travail fantastique sur un demi-siècle pour mettre tous les Français en sécurité, que les aspects logistiques aujourd'hui fonctionne très bien et qu'évidemment, en cas de crise et d'imprévisibilité d'événements, comme disait Stéphane, bah, il faut faire en sorte que ces chaînes puisse tenir. Mais pendant le Covid et malgré le confinement, tout a tenu. Hein, et ça a tenu parce qu'en période ordinaire, le système agricole et alimentaire français est performant. S'il ne l'est pas en temps ordinaire, évidemment, en temps extraordinaire et difficile, il fonctionnera encore moins. Et donc, comme l'ont dit les deux parlementaires et fort bien, il faut de tout temps et partout avoir une activité agricole en France. Partout, sur tous les territoires, et produire ce que l'on peut produire, tout en réalisant que la sécurité alimentaire d'un pays n'est pas la somme de petites souverainetés territoriales qui s'ignoreraient les unes avec les autres. Il faut un projet dans le vivre ensemble national, il faut une ambition stratégique pour le pays et même pour l'Europe dans un monde qui est extrêmement compétitif, qui est extrêmement imprévisible et agité. C'est pour ça que je pense qu'il faut être vigilant sur les histoires des relocalisations agricoles, parce qu'on ne peut pas produire de tout partout, parce que la France importe aussi énormément de produits, il ne faut pas l'oublier, et que c'est la combinaison de plusieurs tendances, de plusieurs productions, de plusieurs réponses pour le consommateur qui augmente cette sécurité alimentaire. Je voudrais juste finir sur un mot.
Très court.
C'est que je crois qu'il ne faut pas non plus confondre certains débats. Parlons-nous de quantité, parlons-nous de qualité, parlons-nous de pouvoir d'achat. Oui, depuis quelques mois, l'érosion du pouvoir d'achat pour un certain nombre de Français font qu'une partie de Français vont avoir de plus en plus de difficultés à bien se nourrir.
Et l'ensemble
des associations caritatives alertent sur les difficultés de pouvoir d'achat d'un certain nombre de Français.
Alors,
et donc, c'est important d'avoir ça en tête.
On a demandé au colonel François Laplace si ce risque était suffisamment pris en compte. Et c'est vraiment intéressant. Écoutez.
Alors, le risque alimentaire en France, il faut d'abord le distinguer du sentiment d'insécurité alimentaire, hein, celui qui crée ces pénuries dans les grands magasins, comme on a vu à la mi-mars. Il commence à être pris en compte. Dire qu'il l'est suffisamment, si on considère qu'il n'y a pas eu de pénurie depuis longtemps, on peut dire que oui. Ceci étant, il faut quand même y travailler sur les différents segments de la chaîne alimentaire. Et là, on va dire qu'il faut beaucoup, beaucoup approfondir le travail. Clairement. Entre la production, la récolte, le transport, le stockage, la distribution, on a des risques qui pèsent sur chacun des segments et c'est cela qu'il faut approfondir. Et en particulier, vers quel consommateur on réfléchit. Moi, je pense que l'effort doit porter sur ceux des grandes métropoles. C'est une responsabilité collective des acteurs publics et privés. Des acteurs publics, bien sûr, du niveau de l'État jusqu'au niveau des collectivités locales. Le principal acteur de la résilience locale, c'est le maire. Donc, je sais qu'il y a des maires qui ont déjà pris ça en compte. Il y a aussi des initiatives qui n'étaient pas dans le cadre de cette résilience alimentaire, mais qui ont été prises dans le Covid, qui sont intéressantes à observer. Je pense en particulier à Angers, qui est une ville que je connais bien, où les marchés ont été remplacés par le déplacement des étals dans les bars et dans les restaurants du centre-ville pour pallier justement les restrictions qui étaient liées aux mesures sanitaires. Très intéressant à étudier ce qui s'est fait là aussi. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres.
Qui réagit ? Le débat est ouvert. Allez-y. Allô ? On vous écoute.
Moi, je viens prendre la parole. Donc, Sylvain, il me semble être le seul agriculteur du débat et je souhaiterais apporter l'idée, un témoignage de l'un de mes voisins qui produit, qui conditionne sous la marque La Ferme Partio des légumes secs et de la farine. Donc, pendant le confinement, il n'a pas eu de difficulté à livrer ses magasins de légumes secs parce que les légumes secs sont produits par un groupe de 50 agriculteurs dans un même territoire. Les emballages sont faits à Troyes, dans l'Aube, et la chaîne de conditionnement est localisée à Chazeré. Donc, c'est au sein d'un même territoire, il n'y a pas eu de rupture d'approvisionnement. Et par rapport à ce qui vient d'être dit, il est important d'avoir une approche globale. Il produit aussi de la farine. Donc, il avait des commandes de farine, il avait de la farine, et ce qui lui manquait, c'était des poches, des sachets dans lesquels on met la farine pour faire des paquets d'un kilo. Et pendant un mois, pendant cette crise sanitaire, en fait, il n'a pas eu de poche pour ensacher sa farine. Et peut-être un petit maillon dans une chaîne globale fait qu'on ne peut pas répondre à la demande. Et si on intègre ce risque alimentaire dans une approche de sécurité, il est important aussi de faire une approche globale pour sécuriser l'approvisionnement des Français. Et parfois, ce n'est pas forcément le maillon qu'on pense qui est le maillon faible dans la bande.
C'est votre proposition, ça, d'ailleurs, que vous souhaitiez faire aux parlementaires.
Voilà. Et messieurs les parlementaires, je pense que la France a des réserves stratégiques de pétrole et c'est géré, il me semble, au plus haut sommet de l'État. Pourquoi ? Parce que c'est stratégique et c'est important pour les Français. Et je pense que l'alimentation, si on reprend la pyramide de Maslow, effectivement, c'est les deux premières lignes de la pyramide de Maslow, c'est quelque chose qui est fondamental pour les Français. c'est fondamental pour la France. Et je pense que les Français, ils ont besoin de pétrole, mais ils ont aussi besoin d'énergie. Et je pense que l'une des propositions qu'on pourrait faire, messieurs les députés, messieurs les,
députés les sénateurs,
c'est d'inscrire l'alimentation comme un risque national et que ça soit géré au plus haut, au sommet d'État, dans le cadre d'une approche globale qui passe par la production, qui passe par la transformation, qui passe par le conditionnement pour sécuriser la nourriture de la France. Oui, en France, on est heureux d'être français parce qu'en France, on peut se nourrir assez facilement.
Joël Jean-Bernard, bonne ou mauvaise idée?
Oui. Alors Jean-Bernard, ce que je pense, c'est vrai que ce que vous disiez est tout à fait vrai. Sur les territoires ruraux comme on a eu, il y avait des denrées, mais il n'y avait pas d'intrants. On a manqué d'emballage sur certains points, effectivement. Et puis un autre sujet aussi, c'est les saisonniers. On avait un manque de main d'œuvre, une disponibilité très très réduite. Donc du coup, ben on s'est retrouvé avec un manque pour les récoltes important et qu'on reçoit encore aujourd'hui. Sur notre région, ben, par exemple, il y a le haricot tarbé qu'on ramasse à la main et qui arrive dans 15 jours. Eh bien, on a des difficultés de trouver de la main d'œuvre. Donc, c'est un sujet aussi important pour nous.
Anaëlle voulait faire une proposition à Joël Labbé. Anaëlle, on t'écoute.
Bonjour, monsieur le sénateur. Bah, je pense qu'il devient urgent de créer un plan hors sec alimentaire, donc pour organisation de la réponse de la sécurité alimentaire. Parce que le constat, c'est vrai que depuis 1976, on n'a pas eu de déficit alimentaire ou agricole en balance commerciale, si on raisonne en monétaire. Depuis 1976, ça fait longtemps, mais si on se projette, en 2023, ça devrait être terminé. Et si on enlève un seul produit sur notre production, le cognac, donc juste un alcool, à la liste des productions agricoles et agroalimentaires françaises, notre balance commerciale devient négative. Et de plusieurs milliards. Donc oui, les volailles consommées dans la RHF aujourd'hui, c'est à 70% importé. Idem pour un légume sur deux. Donc, je pense qu'au niveau sociétal, il faut qu'on puisse être protégé là-dessus, sur ces éléments, sur ces produits. Donc je pense que la souveraineté alimentaire, pour la prendre en compte, il faudrait prendre un système en deux temps. D'abord, se mettre d'accord sur une liste de produits agricoles pour lesquels on n'accepte pas de perdre une souveraineté alimentaire au niveau français. Des produits comme le blé, sûrement la pomme, la volaille ou que sais-je. Et cette liste pourrait être révisée. Et ensuite, un plan en lui-même qui aurait deux axes, avec un seuil défensif et un seuil d'intervention plus actif. Un seuil d'alerte, passer un certain seuil d'autonomie alimentaire ou d'indépendance alimentaire, eh ben, là, on fixe des règles de protection, mécanismes défensifs pour éviter que la situation ne se dégrade plus. Et un deuxième seuil où là, si on passe en dessous d'un autre seuil plus grave, eh ben là, c'est un mécanisme incitatif et actif pour revenir à une sécurité alimentaire dans les 5 à 7 ans, le temps que le plan fasse son effet et que les filières redémarrent sous l'impulsion.
Bonne ou mauvaise idée, Joël Labbé?
Alors, c'est une bonne idée dans presque l'urgence et le court et les moyens termes. Un plan hors sec, ça dit bien ce que ça veut dire. Comment répondre aux risques. Un mot sur la question de la souveraineté alimentaire. On n'a pas notre souveraineté alimentaire pour ce qui est des productions animales, tant on dépend du soja importé d'Amérique du Sud, faut le dire, à 80% transgénique. Donc, souveraineté alimentaire, on ne l'a pas de ce côté-là. Il va falloir qu'on ait un plan de sortie des importations de soja d'Amérique du Sud et qu'on arrive à notre autonomie protéique. Puisqu'on parle de plan, pour moi, il faudrait une autre forme de plan, de planification à 10 ans, à 20 ans, comment former de nouveaux paysans, comment réirriguer nos territoires ruraux de paysans. C'est une vraie question pour les productions alimentaires. Ou bien on continue la tendance actuelle qui est vers une industrialisation de l'agriculture et de telle sorte qu'on aura encore moins de paysans et les paysans qui restent souffriront encore plus. Parce qu'il est très important de dire qu'aujourd'hui, notre agriculture ne nourrit même pas bien ces paysans. La question des suicides sur lesquels on s'est penché au Sénat également, c'est absolument inadmissible que notre société en soit là. Donc planification générale. Pour réimplanter les systèmes polyculture élevage sur les territoires, il faudra bien qu'on y arrive pour la sécurité alimentaire des territoires, ce qui veut dire remise en question totale de la logique actuelle Mais évidemment, pas en rupture, mais en orientation rapidement donnée.
Vous avez vu que le gouvernement a mis 100 millions d'euros sur la table là pour le plan protéines. Alors, des plans protéines, j'ai l'impression qu'on en fait depuis 30 ans et ça ne marche jamais. Pourquoi ça ne marche pas ?
Alors, si je peux me permettre très rapidement,
oui, s'il vous plaît.
Si on veut remplacer les quantités de soja par de la protéine de chez nous, c'est non. Maintenant, si on repart vers de l'élevage moins concentrationnaire, plus extensif, qu'on remette en place les prairies permanentes, tous ces systèmes qui sont favorables pour le climat, la biodiversité, mais aussi pour la saine nourriture des animaux. Faire en sorte que tout cela, on puisse le mettre en œuvre, et je le répète, sous forme de retour à la polyculture, au polyélevage sur les territoires.
Alors, je vais vous faire écouter une initiative, elle me semble intéressante, c'est une commune de Vendée qui va innover dans quelques semaines, vous allez voir, on va en parler, en intégrant le risque alimentaire dans son plan communal de sauvegarde, et on écoute le commandant des sapeurs-pompiers, Marc Lepelletier.
Alors donc, en 2019, en fait, j'ai eu une discussion avec le directeur général des services et puis le maire de la commune de Dompierre-sur-Yon, parce qu'en fait, à Dompierre-sur-Yon, on n'a pas de plan communal de sauvegarde. Alors, c'est un document qui est issu d'une loi datant de 2004, et il se trouve qu'en Vendée, on est une des rares communes à ne pas en avoir. Et en discutant avec eux, je leur ai dit, mais quitte à devoir rédiger ce plan communal de sauvegarde, autant intégrer des risques tels que le risque de pénurie d'approvisionnement alimentaire dedans, pour faire d'une pierre deux coups. Il faut savoir qu'un plan communal de sauvegarde, c'est un plan dans lequel on retrouve les risques auxquels sont exposées une commune. Ces risques sont identifiés par la préfecture, les risques majeurs tels que risques naturels, tempêtes, inondations, ou risques technologiques, rupture de barrage et autres. Et voilà ce qu'on retrouve dedans. Et donc je leur ai dit, mais allons plus loin que ces cinq risques auxquels est exposée la commune de Dompierre-sur-Yon. Et dans le contexte actuel, intégrons le risque de pénurie d'approvisionnement alimentaire. Et c'est ce qu'a fait la mairie. Ils ont intégré donc ce sixième risque dans l'appel d'offres que l'on a fait pour recruter un cabinet extérieur qui va donc accompagner cette année la mairie et la commune pour rédiger ce plan communal de sauvegarde.
Jean-Bernard, à Bagnères, on pourrait faire pareil ?
Oui, c'est une très bonne idée. Bah, déjà, si les élus... prenez à cœur déjà un outil qui s'appelle le SCOT, ça serait et y mettre l'agriculture véritablement dedans, ça serait très bien. Mais c'est vrai que de rajouter un plan comme celui-là, ça serait intelligent. Mais pourquoi ? Parce que déjà, se poser la question d'aller à la rencontre du monde agricole et de savoir quelles sont les problématiques qu'ils peuvent avoir sur le territoire et comment, dans des crises que l'on peut connaître, le changement des habitudes de consommation permettrait de répondre à toutes ces questions, ça serait une très bonne idée. Moi, je crois beaucoup à ce dialogue qui permettrait à tout le monde de voir le bienfait de ce genre d'initiative.
Comment vous réagissez, les autres ?
Moi, je réagis en me posant la question des qu'est-ce qui a fait que notre balance commerciale se dégrade ? Qu'est-ce qui fait que le Sénat, en 2019, s'inquiète de la fin de notre indépendance alimentaire en 2023 ? C'est la Direction générale du Trésor qui répondait de manière très claire. La France, la balance commerciale se dégrade du fait d'un dumping social en Europe. Pas de la France du coup, une tendance à la surréglementation, à la surtransposition des réglementations européennes, des fragilités du secteur avec notamment une atomisation du secteur agroalimentaire et un choix de positionnement haut de gamme qui finalement n'est pas si lisible que ça à l'international, mais même au niveau national, on le voit avec le poulet, finalement en RHF on préfère du bas de gamme importé que du haut de gamme produit chez nous avec des labels rouges. Donc dans ce plan, on sait que dans la réflexion sur l'aspect sécurité alimentaire, il faut aussi avoir une certaine objectivité sur ce que consomment les Français et effectivement entendre leurs demandes de qualitatif, mais aussi regarder de manière objective vers quoi ils se tournent quand ils achètent quelque chose.
C'est une idée que Denis souhaitait développer aussi, Denis Beauchamp.
Oui, alors je suis assez d'accord avec ce qu'il m'a dit. Quand on regarde ce que consomment les Français, il faut regarder ça avec un peu de lucidité. Et le haut de gamme, le qualitatif, on sait très très bien le faire, on y arrive très bien, on n'a aucun problème avec ça, mais il y a quand même une grosse partie de la population qui achète aussi de l'entrée de gamme. Et aujourd'hui, pour prendre l'exemple du poulet qui est très parlant, cette population se détourne des élevages français. Elle va acheter, faire venir de l'étranger ce poulet qui vient de faire usine, qu'on ne veut surtout pas voir en France, mais par contre, on achète les produits qui en sortent. Donc là, à un moment, il y a un paradoxe aussi qu'il faudra résoudre, et soit aider les gens à payer un peu plus cher leur nourriture tant que c'est possible, mais ça va vite être limité, soit se dire comment est-ce que nous, on arrivera à produire cette volaille-là en France, ou même cette charcuterie. On importe de la charcuterie d'Espagne qui a été élevée avec des céréales françaises, c'est quand même assez prodigieux. Et pourquoi est-ce que nous, on n'arrive pas à avoir ces élevages-là en France pour la consommation française? Près de la moitié du poulet est importé pour la restauration en foyer. Pour moi, le problème de sécurité, il est là. C'est-à-dire qu'on est capable en France de fournir l'alimentation de qualité pour une bonne partie de la population, mais il y a une grosse frange qu'on laisse un peu à part parce que bon, on ne sait pas produire à des coûts de production accessibles pour eux, donc on les délaisse un petit peu. Pour moi, le vrai problème, il est là, c'est qu'est-ce qu'on dit à ces gens qui ont besoin d'une alimentation pas chère? Est-ce qu'on les laisse finalement se tourner vers le poulet polonais, le cochon espagnol ou ce qu'on veut, et que nous, on se contente de faire du haut de gamme? Je pense qu'il faut vraiment de tout. Il faut du circuit court, il faut du qualité, il faut absolument de tout, mais il faut aussi réussir à produire du pas cher, de l'entrée de gamme. Il faut avoir la lucidité de l'avoir quand même.
Joël Labbé, Jean-Baptiste vous dit sur les réseaux sociaux, 60% de l'élevage est à l'herbe et c'est sympa de proposer du boulot aux agriculteurs et aux futurs agriculteurs et aussi de rêver de systèmes que les élus ont eux-mêmes contribué à dézinguer. Manque de cohérence des politiques.
Alors, je veux bien répondre là-dessus. Sur la responsabilité des élus politiques depuis des années, on se retrouve dans cette situation parce que le système équilibré du passé... Il est nécessaire qu'il y ait du progrès. Il y a eu du progrès, il était nécessaire. Un certain progrès. Mais les équilibres du passé sont tombés du fait des choix politiques, et qu'on le veuille ou non. La suppression des quotas, ça a bien été cautionné par une partie en France. Les accords de libre-échange, les accords européens, la question de la place du marché dans la politique européenne, les politiques ont démissionné, à mon sens, et les politiques doivent reprendre maintenant le pouvoir dans l'intérêt des populations. On citait tout à l'heure la question du poulet. Alors certains disent ben, le poulet de qualité, il ne peut pas être pour tout le monde. Eh bien, le poulet de qualité, il doit être pour tout le monde. Il se trouve que la production française, on est exportateur de poulet, largement, alors que 45% de la viande de volaille consommée en France est importée. Alors, les gens qui n'ont, alors, c'est importé par qui? Il faut se poser la question. Et elle est produite comment? Les importateurs ne vont pas voir comment elle est produite parce qu'il s'agit toujours de taper au moins cher pour faire les meilleurs bénéfices. Donc, nous, on défend aussi l'idée d'une sécurité sociale et alimentaire avec une alimentation de qualité. Il faudra bien qu'on y arrive.
Alors, vous savez
la méthode américaine qui finance finalement le consommateur pour acheter du produit américain.
Bonne ou mauvaise méthode, Sébastien Abyss?
Chaque pays a la liberté de développer sa propre politique agricole et alimentaire. Il est sûr qu'il est toujours intéressant de regarder ce qui se fait à l'étranger pour s'en inspirer. Maintenant, encore une fois, j'aimerais insister sur un point, c'est que aujourd'hui, je crois que le grand débat finalement, c'est est-ce qu'on n'a pas perdu du temps depuis 10-20 ans à des débats parfois très stériles en France, à vouloir opposer des modèles, à avoir opposé des idéologies, alors que j'ai plutôt le sentiment que les derniers temps confirment que tout le monde se retrouve sur la nécessité d'avoir une agriculture et un système agroalimentaire performant en France pour précisément des histoires de sécurité humaine et collective au niveau national, mais également parce que finalement, c'est des questions d'emploi, c'est des questions de vitalité territoriale, c'est des questions d'écologie et de développement durable, c'est des questions d'innovation, c'est des questions de renouvellement générationnel avec des jeunes qui ont envie de s'investir sur les questions de climat, de vivre au cœur des ressources naturelles, du vivant. Et les métiers agricoles sont au cœur justement du développement durable et sont les protagonistes précisément de ces transitions à l'œuvre aujourd'hui. Donc, puisqu'il y a une volonté de tous en France, quels que soient les bords politiques, quelles que soient les activités professionnelles, puisqu'en fait on consomme tous au quotidien cette alimentation qui est de qualité en France, mais qui est aussi de qualité parfois ailleurs, retrouvons-nous collectivement dans un projet national où l'objectif, c'est de cultiver dans la durée de la performance alimentaire. On a beaucoup parlé du plan de relance ces dernières semaines. Alors évidemment, il faut relancer certains aspects de l'agriculture si on regarde dans le rétroviseur à très court terme, à quelques semaines, à quelques mois. Mais je crois qu'il faut surtout entretenir la puissance agricole et alimentaire de la France avec évidemment certains changements de trajectoire, avec évidemment de l'innovation et de l'adaptation aux réalités contemporaines, mais se souvenir, et je crois que c'est très important, se souvenir qu'en 2020, on est en sécurité alimentaire en France.
C'est triste, c'est très triste, mais ça fait déjà 40 minutes qu'on débat sur la question, et 40 minutes, c'est la fin de l'émission qui sonne. Bon voilà, nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission, je tenais à vous remercier, bien sûr tous les invités qui avaient participé et qui avaient fait que ce débat a été aussi animé, l'association Co-Farming, ainsi que nos partenaires, je les cite parce que c'est grâce à eux que nous sommes là, la Banque Populaire et le groupe Agrica, et puis je tiens à souligner, bien sûr, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, de lire l'ouvrage de Stéphane Linou, Résilience alimentaire et sécurité nationale, oser le sujet et le lier à celui de l'effondrement, ainsi que le livre donc Géopolitique de l'agriculture, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde, le nouvel ouvrage de Sébastien Abyss. Voilà, je vous remercie à tous, et puis on se retrouve mardi prochain, mardi 15 septembre à 19h précise, pour une nouvelle émission. Bonne semaine à tous et à bientôt. Merci les invités.
Merci.
Merci à tous.
Merci bien.
Merci, bonne soirée.
Au revoir, bonne soirée.